Oui, juste une petite question, Françoise. Deux choses. D'une part, quel sera le rôle des bureaux d'études qui ont aujourd'hui la charge de réaliser tous ces merveilleux documents d'urbanisme avec les compétences ou pas qu'ils auront en la matière? Deuxièmement, quelles mesures ou démesures, puisque d'activités qui peuvent être extérieures au territoire, mais dont les rejets vont être pris en compte à l'intérieur des territoires. Voilà, donc mesures ou démesures à la fois des bases et de toutes les nuisances, quoi.
Oui, alors, bon, sur ce qui est externe ou pas, ça, je ne suis pas rentrée vraiment dans les détails de la façon dont ça va se mesurer. Ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il y avait plusieurs techniques de mesure. À l'heure actuelle, ce n'est pas encore très. Il y a une méthode réglementaire qui a été mise en place pour ce qui concerne les émissions, enfin du bilan carbone en fait, des collectivités, des entreprises, etc. Par contre, on se référait à plusieurs types de méthodes, hein. Donc je pense que là, c'est pas encore, on n'a pas une méthode qui soit la même partout, hein, et donc ça reste un peu flou en fait, d'après ce que j'ai compris. Comme j'ai expliqué, je ne suis pas spécialiste du droit de l'énergie, donc c'est un peu ce que j'ai vu, c'est qu'on devait évaluer toutes les émissions, hein, y compris celles qui ont un impact sur l'extérieur. C'est assez complexe, hein. Sur les bureaux d'études, oui, ben, il y a pas que la transition énergétique, il y a d'autres domaines qui imposent maintenant. En fait, c'est toute une ingénierie juridique qu'on met en place, complexe, qui impose que, par exemple, bon, sur le droit, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, puisqu'on introduit cette notion d'évaluation. Ces évaluations, elles doivent être, il y a un suivi des documents qui n'existaient pas auparavant, qui doit être régulier. Et donc ça impose en fait au service de l'urbanisme comme au bureau d'études d'avoir, comment dire, de faire un suivi régulier du document, c'est-à-dire ils vont faire une gestion du document, c'est pas simplement élaborer le document, mais il va falloir avoir une gestion en continu qui est très chronophage et qui impose aussi des techniques. Ou alors il va falloir, de toute façon, il y a des bureaux d'études qui se spécialisent dans tout ce qui est thermique. Et voilà. Et ça a un coût pour les collectivités qui sera très important aussi. Voilà.
Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Vincent Badjoni, je partais en cours de la messe, un laboratoire de sociologie sur Aix, qui bosse un petit peu sur ces questions d'énergie. Moi, j'avais une question en vous écoutant en reprenant un peu l'introduction qui avait été faite par Hélène Régnier sur la question de l'injonction à des mots d'ordre environnementaux, etc. En vous écoutant, je me dis finalement que cette injonction, d'un point de vue législatif, elle me semble faible, enfin qu'aujourd'hui, on est plutôt sur des logiques de contrainte, d'encadrement, mais pas forcément d'incitation. Et voilà, je me disais notamment par rapport à la définition dont le facteur 4 avait été, enfin la manière dont le facteur 4 a été défini au départ, notamment qui voyait des objectifs en termes incitatifs, notamment sur les usages énergétiques. J'ai l'impression, enfin c'était une impression, hein, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a une sorte de glissement en disant bah, finalement la contrainte agira plus que la réflexivité ou que d'amener les gens à réfléchir sur leur usage énergétique?
Ça vous paraît pas très contraignant, mais c'est vrai que les objectifs.
C'est plutôt très contraignant et peu incitatif. En vous entendant.
Oui, alors très contraignant, je ne suis pas sûre que, bon, en fait, on fixe un pourcentage à atteindre, donc on dit qu'on peut revoir quand même ses objectifs, c'est peut-être pas très contraignant. Moi, je trouve, a priori, par rapport aux objectifs, ben, je pense qu'on aurait pu aller peut-être plus loin. Après, est-ce que c'est plus incitatif ou plus contraignant? Les outils du droit de l'urbanisme, a priori, peuvent sembler contraignants, mais en réalité, pratiquement tous les outils qui ont été mis en place, bon, ce que j'ai évoqué très rapidement, là, qui, ils sont laissés à l'appréciation des collectivités qui vont les mettre en place, pour l'instant. C'est-à-dire qu'il y a tout un processus qui se met en place. Par exemple, les documents environnementaux, dans un premier temps, on les introduit de manière non contraignante. On dit, voilà, il faut juste les prendre en compte. Quelques temps après, il faut être compatible avec ces documents. Ensuite, on met des outils en place qui, pour l'instant, donc, laissent le choix aux autorités de les utiliser ou pas. Cette sectorisation, elle est pas contraignante. On dit, vous pouvez choisir de mettre en place un secteur dans lequel vous allez développer vos énergies renouvelables. Mais pour l'instant, tout est pratiquement tout, à part ce que j'ai cité là sur la dérogation sur l'isolation des bâtiments par l'extérieur. Là, on a commencé à mettre en place des choses plus contraignantes. Je pense que c'est une évolution progressive qui va vers plus de contraintes. Pour l'instant, c'est plus incitatif. Bon, on utilise beaucoup, j'en ai pas parlé, on utilise beaucoup les incitations fiscales, hein, surtout par rapport aux constructeurs ou aux particuliers, hein, et pour jouer sur leur comportement. Et là, on est dans l'incitatif avec, comment dire, des résultats qui sont mitigés, parce que les trajectoires des individus, elles ne sont pas forcément ce qu'on veut leur faire faire, en fait. Voilà. Donc voilà, moi je dirais que c'est plutôt pour l'instant du droit qu'on appelle souple ou mou, comme vous voudrez, mais qui va avoir tendance à se durcir au fur et à mesure.
Cécile et Clarisse, rapidement, parce que je crois que tout le monde a faim, en tout cas moi j'ai faim. Il y a un point qui m'a vraiment intéressée quand vous avez finalement conclu que les quartiers qui auraient le plus besoin de politiques de transition énergétique sont les quartiers résidentiels périurbains, et c'est pour le moment ceux qui sont le moins soumis à cet outil juridique-là. Vous pensez, mais je ne sais pas si vous avez le matériel empirique hein, pour y répondre, vous pensez que ça a oubli du législateur, ou c'est une volonté, cette idéologie française, pas que française, du maintien absolument de l'idéal de l'habitat pavillonnaire sacro-saint qu'il ne faut pas toucher?
Alors, il y a peut-être ça derrière. Moi, je pense que là, dans l'exemple que j'ai cité, c'est vrai que c'était des questions. La question est plus technique, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a plus de mal à avoir des leviers d'action sur ces quartiers-là. Et je vois qu'on essaie quand même d'ouvrir des possibilités d'agir dans le droit de l'urbanisme. On s'interroge sur les lotissements, par exemple, et sur les copropriétés. Donc je dirais que la limite de... On essaie d'influer sur les comportements des collectivités. Bon. Maintenant, il y a des limites dans leur... Même si elles ont la volonté d'agir, par exemple, en matière de lotissement, on a changé la réglementation pour essayer de densifier les lotissements. Ça, c'est une préoccupation qui est très forte dans le droit de l'urbanisme aujourd'hui. Seulement, c'est heurte à quoi ? On est dans la logique privée. Hein, vous parliez tout à l'heure des espaces fermés, mais on est là aussi dans une logique de droit privé, et on a toujours le sacro-saint, par contre, droit de propriété, sur lequel qui empêche la collectivité d'agir directement, comme dans des copropriétés dégradées, par exemple, où pour agir, en fait, bon, on essaie de trouver des biais, où il faut acquérir des lots dans la copropriété pour pouvoir avoir une majorité, voilà. Et les lotissements, c'est le même principe, c'est qu'on essaie, mais on ne peut agir que de manière incitative, parce que si le propriétaire ne veut pas diviser son terrain ou densifier ou faire quoi que ce soit, on n'arrive pas à lui imposer, même si la loi essaie de...
Encore une question? Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je me pose vraiment la question sur le couple, en fait, des leviers d'action entre évaluer les modes de consommation foncier et développer une politique de transport vertueuse en matière énergétique.
Et donc, si j'ai bien compris, a priori, cette articulation n'est pas encore évaluée dans le cadre des PLU communaux, c'est ça?
Oui, parce qu'en fait, ils ont une obligation d'évaluation qui est beaucoup plus...
Voilà, d'accord. Et donc, il me semble que tant que cette question de penser simultanément ces deux leviers d'action ne sont pas posés, on en arrive à des situations paradoxales, telles que celles qu'on a vues justement et qu'on voit au port du parc des Calanques, avec un défaut de réflexion en termes de déplacement, et par contre un développement et une densification très grande, donc qui ne fait que, je dirais, générer un problème supplémentaire. Et on a des échéances pour savoir quand est-ce que...
Alors, les échéances, là, ça renvoie à la réforme plutôt institutionnelle, c'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire, mais c'est compliqué, hein, c'est que le législateur essaie de faire, c'est de passer au plus intercommunal. Et donc ces politiques, elles sont plus contraignantes lorsque on fait le lien plus facilement quand on est à l'échelle intercommunale où on pense dans un SWOT, on pense à la fois les transports, donc la densité, etc. Mais le plus intercommunal, bon, on a voulu le faire passer avec la loi Allure. Il y a eu une levée de bouclier des maires qui compliqué parce qu'ils se voient déposséder de leur principale compétence. C'est quand même le plus un document politique, mais je dirais, hein, c'est important pour une commune. Donc, ils ne veulent pas s'en défaire. Donc, on a temporisé, disons que c'est pas vraiment obligatoire, mais de plus en plus, les taux se resserrent, mais ça prend des années. Voilà, le problème, c'est que le temps du droit aussi, c'est un temps et du changement, c'est pas la transition. Les techniques, elles vont beaucoup plus vite que le droit, parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas une volonté au départ de mettre en place une bonne dispositif, mais c'est qu'il y a des résistances, comme on le voit pour l'habitat communautaire et autres. Dans notre région, en plus, ça continue à se développer, parce qu'on a laissé faire les maires qui n'ont pas non plus les moyens d'investir dans des équipes pour desservir ces zones non plus. Voilà, donc pour l'instant ça se poursuit encore. Après, qu'est-ce qui se passera quand on va avoir une métropole ou une intercommunalité? Déjà, c'est pas évident que ça change du jour au lendemain. On va le voir avec la métropole, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre les politiques, on va juxtaposer pour l'instant ce qui existe. Donc je pense qu'il faut voir vraiment à très long terme pour que les choses vont évoluer, mais ça va prendre des années.
Je m'autorise à un élément de réponse sur votre question sur est-ce que c'est un hasard si on a oublié le périurbain qui en a bien besoin. Alors il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas besoin d'investissement public et d'action publique dans les périphéries des villes, hein, où sont les dynamiques à la fois économiques et de peuplement, mais ces espaces sont souvent stigmatisés comme étant émetteurs de gaz à effet de serre, entre autres, avec ce raisonnement qui, en fait, on sait maintenant qu'il est inexact. On va densifier, donc on va limiter les déplacements, donc on va réduire le bilan émissions gaz à effet de serre. Un collègue qui s'appelle Jean-Pierre Orfeuille a synthétisé des résultats, il a appelé ça l'effet barbecue. En quelques mots, comment on mesure nos mobilités en France, historiquement sur des enquêtes qui mesurent des mobilités quotidiennes en semaine. Donc on voit que le domicile travaille. Donc effectivement, lui, c'est à l'échelle de l'Île-de-France. Il nous montre que les Franciliens ont des mobilités domicile travail plus importantes que les Parisiens intramuros. Et il fait le bilan voilà, jusqu'à aller ce qu'ils émettent en gaz à effet de serre. Sauf que avec le développement de nos modes de vie, des jours passés hors de la maison, si on regarde les mobilités globales, fin de semaine, vacances, week-end, de nos franciliens et de nos intramuros, eh ben, le bilan, ils ont des mobilités quasiment égales, voire même, à cause des effets de revenus, les franciliens sont moins émetteurs de gaz à effet de serre que les intramuros qui vont aller faire le week-end à Marrakech en prenant vite fait l'avion à Orly. Donc ce mauvais périurbain pas responsable qui prend sa bagnole et qui pollue plus, en tout cas sur les mobilités, je suis moins calée sur les performances énergétiques de l'habitat, En tout cas, sur les mobilités, ça ne tient pas. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin d'action publique dans ces territoires.